Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV.
C'est vous qui représentez le système.
Hello. Ben voilà, il est 9h40 sur France Inter et c'est le dernier instant M de la semaine.
Vous êtes en direct, allez-y.
Histoire mondiale de la France, ouvrage collectif dirigé par Patrick Boucheron, a déclenché l'année dernière force polémique. Le débat vous a parfois et nous a parfois un peu échappé, c'est normal. La question, en apparence très simple, peut-on raconter l'histoire autrement que par les sempiternelles grandes dates et les sempiternelles grands hommes, contient en réalité discussions historiographiques et débats idéologiques complexes. Alors aujourd'hui que Patrick Boucheron propose une série de documentaires télé, on s'est dit « La voilà, la porte d'entrée, l'histoire médiatique ». Oui, l'histoire à la télévision, celle d'Alain Decaux, celle de Stéphane Bern, celle des grands prime time comme Apocalypse, celle qui met en scène précisément les sempiternelles grandes dates et les sempiternelles grands hommes.
L'instant M, Sonia De Villers, sur France Inter.
Bonjour Patrick Boucheron, pardonnez-moi.
Bonjour, Sonia.
Je rajoutais les R de professeur au Collège de France, histoire mondiale de la France, je l'ai dit, 146 dates, 122 historiens, paru au Seuil, vendu même dans les gares à plus de 100 000 exemplaires. Vous savez où on en est exactement?
Loin de 110 000.
Pas loin de 110 000, voilà. Alors la série qui démarre demain à 16h30 sur Arte s'intitule « Quand l'histoire fait date », elle est plus modeste, 10 dates, une par épisode, ce n'est pas du tout une adaptation du livre, il faut le dire tout de suite. Et depuis 3 ans que vous travaillez à cette série, en réalité, le livre est venu se télescoper à la série puisqu'il est sorti l'année dernière. Mais ça permet quand même d'interroger au global votre manière de travailler et votre approche. Néanmoins, nous sommes vendredi et tous les vendredis dans l'Instant M, c'est le jour de l'Instant Madeleine. Êtes-vous prêt à jouer avec nous? Pas vous, Patrick Boucheron, il n'y a que les auditeurs qui ont le droit de jouer. En répondant à la question que je vais vous poser par mail, l'instantm@radiofrance.com, voici ma question. Vous connaissez le producteur des dossiers de l'écran, mais qui en fut le présentateur?
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nous ne sommes pas ce soir dans notre studio habituel de la Rue Cognac-Gênes. Nous sommes installés là, à l'endroit même où vont converger tout à l'heure tous vos appels. Nous sommes en effet installés au central SVP et si nous avons changé notre dispositif habituel, c'est pour essayer d'établir avec vous et notre invité unique ce soir, Alexandre Solzhenitsyn, un contact plus sensible, un contact plus concret.
Quelle est cette voix qui présenta les dossiers de l'écran? L'Instant M at radiofrance.com. Ce matin, la fine équipe de l'Instant M, Anne-Cécile Perrin, réalisatrice, Redouane Tella et Marion Philippe, ainsi que Mathias Alléon, notre technicien, vous offrent un film fantastique réédité par Lina, période ORTF, c'est l'invention de Morel, d'après la nouvelle d'Adolfo Bioy Casares.
L'Instant M sur France Inter.
Alors Patrick Boucheron, comment une date s'incruste dans la mémoire collective? Comment un événement se construit au point de devenir un repère dans nos livres d'histoire? Je l'ai dit, vous proposez une série télé. Alors on s'est demandé, finalement, pour faire simple, comment une date devient un point d'ancrage pour la télévision aussi. C'est une autre forme d'apprendre l'histoire et de la transmettre. Ce ne sont pas les livres d'histoire, mais quand même, nous y voici. Partons d'un constat très simple, si vous voulez bien. Qui dit télévision, dit date anniversaire ou commémoration. C'est le calendrier roi du média télé. La guerre d'Indochine et la guerre d'Espagne doivent avoir des dates anniversaires pour qu'on leur ouvre des cases documentaires.
En Espagne, une coalition de Front Populaire a remporté les élections de février 1936. Depuis, la tension ne cesse de s'aiguiser entre deux Espagnes, l'une rurale nationaliste et catholique, l'autre citadine, républicaine et laïque.
Formidable documentaire signé Patrick Rothman. Même des grands noms du documentaire comme Patrick Rothman doivent attendre la date anniversaire pour avoir le droit de parler de la guerre d'Espagne. Patrick Boucheron, oui, la télévision, les dates, les commémorations.
Oui, il y a là une sorte d'apparentement et on a voulu un peu déjouer cette habitude, même si pour moi c'était pas naturel. Vous l'avez dit, moi jeune homme, j'ai pu rêver de faire de la radio, de la télévision certainement pas, parce que, mais c'est important de le dire, parce que je suis pas particulièrement excité à l'idée qu'on puisse me voir à l'écran, et pourtant il y a une nécessité à le faire, sans doute pour rappeler que l'histoire c'est un métier et que ce métier consiste à partager des savoirs, des contenus de connaissances qu'on a construits, qu'on n'a pas, on n'est pas inspiré, ne nous tombe pas sur la tête, d'en haut, du ciel. Ça travaille. Et ce que je voulais tenter de montrer avec les réalisateurs, avec les producteurs, avec toute l'équipe, parce que c'est une formidable aventure collective, hein, une émission de télé, c'est comment ça marche. Voilà, c'est-à-dire que la seule, le seul point commun que je vois entre l'histoire mondiale de la France, outre les dates, et quand l'histoire fait date, c'est cette conviction, mais qui n'est pas simplement mienne, qui est celle, au fond, de, des historiennes et des historiens dont je tente, de, à mon niveau, de rendre le travail désirable et visible, c'est-à-dire faire voir quel est le métier d'historien. Et là, pour le coup, ben, une date, je suis désolé, elle est dans le calendrier, mais il faut aussi comprendre comment elle s'est construite, comment l'événement s'est déroulé.
Justement,
et comment on l'a construit ?
Parce que on ne peut pas s'arrêter sur chacun de vos 10 épisodes, ils sont d'une extraordinaire densité. Mais il y a quelque chose de très frappant, on va dire, pour au moins 4 d'entre eux, c'est que vous choisissez une date dont moi, on m'a toujours appris à l'école que c'était soit le début de quelque chose, soit la fin de quelque chose. La crucifixion de Jésus, bon ça évidemment c'est l'an 0, c'est le début de notre histoire chrétienne. 1492, Christophe Colomb, moi on m'a toujours dit c'est la fin du Moyen-Âge. On va écouter d'ailleurs Christophe Colomb, un petit extrait.
Le 12 octobre 1492, est-ce que c'est ça l'événement de l'année ? Christophe Colomb qui pose le pied sur une plage ? Je crois pas. D'abord, il faut se souvenir que l'événement retentissant de cette année monde, c'est le 2 janvier. Le 2 janvier, la prise de Grenade, où Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, ce qu'on appelle les rois catholiques, mettent la main sur le dernier réduit musulman en péninsule ibérique, qui est évidemment une nouvelle extraordinaire pour le monde.
Alors voilà, je l'ai dit, l'an 0, 1492, 1945, Hiroshima, moi on m'a toujours dit c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 1990, libération de Mandela, on m'a toujours dit c'est la fin de l'histoire coloniale. Eh bien avec vous, la date, ce n'est ni le début ni la fin.
Oui, c'est comme si on tentait de restituer dans son épaisseur des événements de longue durée. Mmh. Par exemple, Mandela, effectivement, vous pouvez dire très justement que c'est le dernier acte de la décolonisation, mais il faut comprendre que c'est parce que l'Afrique du Sud, ou plus exactement le sud de l'Afrique, a été la première terre africaine à être colonisée au XVIIe siècle. Donc la première à être colonisée, la dernière à être décolonisée. Et si on comprend cela, alors on saisit, c'est pas qu'on dilue, parce qu'au contraire, on comprend pourquoi ça a été si violent. On comprend pourquoi, effectivement, l'aventure de Nelson Mandela, là on retrouve une date, là on retrouve un grand homme, même d'une certaine manière. Là on retrouve aussi la puissance de la parole, parce que on s'arrête sur le discours.
Discours
du 11 février, qu'est-ce qu'il va dire ? Voilà un homme qu'on connaissait, dont on connaissait au fond l'icône, mais dont on ignorait le visage.
Alors justement, quand la télévision se focalise sur un événement dramatique, et tout est dans le mot dramatique, il y a l'idée qu'on va saisir l'événement à un moment de dramatisation suprême. Donc là aussi, hein, il faut s'arrêter dans le temps. Est-ce que justement, toute la question, c'est de prendre ce qu'on appelle une séquence courte, là où vous essayez, vous, de déplier dans des séquences longues, et qui dit longueur, dit forcément contradiction, complexe, on avance, on recule.
Ben oui, parce que vous prenez évidemment des événements qui sont des événements saillants et cinglants.
Hein, c'est ça,
c'est-à-dire
cinglant,
le
voilà.
6 août 1945, ça se passe, ça s'est passé là. Et d'ailleurs, ça a eu lieu et le leitmotiv la série, parce qu'il s'agit de montrer que ce qu'on appelle un événement, c'est du temps qui se plie dans un lieu, quelque part sur la Terre. Donc là, c'est à Hiroshima, à 8h14, le 6 août 1945. Mais si on parle de la peste noire, c'est pas sans rapport, parce qu'il y a aussi des catastrophes dont on parle de Pompéi, etc. Pompéi, on sait le jour, enfin on hésite entre deux jours, mais enfin c'est soit le 24 août, soit le 24 octobre 79. En revanche, la peste noire, elle s'étale sur 10 ou 60 ans, selon la manière dont on le calcule, et la chute d'Angkor, 1431, est aussi incertaine comme date que les dates dont on vient de parler sont certaines.
Alors, il y a, on l'a dit, les dates anniversaires, on l'a dit les grandes dates, on a dit les grands événements. Il y a forcément, c'est l'autre clé d'entrée de l'histoire médiatique, les grands hommes, notre ami Stéphane Bern.
Nous allons suivre pas à pas l'itinéraire fascinant du roi Soleil. Son enfance, sa prise du pouvoir, sa conception de l'État et de la monarchie absolue de droit divin qu'il entend incarner, ses batailles nombreuses, ses amours tumultueuses et son goût tout aussi passionné pour les arts, l'architecture, les jardins, la musique ou la danse.
Alors, ce n'est pas que cette archive crachouille, c'est que derrière, il y a les grandes eaux. On entend la fontaine. C'était donc Stéphane Bern. Patrick Boucheron, parmi les attaques que vous avez essuyées lors de la sortie du livre « L'histoire mondiale de la France », il y en avait qui portaient sur le besoin, notre besoin à tous, d'avoir de grands hommes comme repères dans l'histoire nationale et l'accusation qui vous était portée de les déboulonner.
Oui, ce qui était d'ailleurs très très loin de ce qu'on avait fait en réalité, mais il y a un moment qui est celui que dont vous avez parlé au début de l'émission, c'est-à-dire un moment de très forte visibilité et d'exposition médiatique du fait d'un chiffre de vente qui n'était pas exactement celui qu'on avait anticipé, où de toute façon on ne peut plus dire ce qu'on a fait et ce qu'il y a dans le livre, parce que s'interpose entre le livre et le débat public l'idée que d'autres se font de ce livre et qui, à force d'être asséné, devient obsessionnel. Présente dans les médias. Donc voilà, on a dans ce livre, il y avait au fond des grands hommes, ceux dont on racontait l'histoire, mais au fond, raconter l'histoire, c'est aussi choisir, et de toute façon, on ne raconte pas plus l'histoire mondiale de la France en 122 dates qu'on ne raconte, au 146, qu'on raconte l'histoire du monde en 10 ou 20 ou 30.
Mais ces grands hommes, ce sont aussi des grandes figures médiatiques.
Et oui.
Que ce soit le général de Gaulle, ou que ce soit Napoléon, ou que ce soit Louis XIV, pour être dans le top 3 de ce qu'aime le plus la télévision.
Mais là, je réfléchis un peu à votre question, mais on ne déboulonne rien, au fond, dans cette émission-là, justement. Oui. Mandela, c'est difficile au fond de ne pas regarder ce qu'il fait au moment où il sort de prison, et c'est difficile de ne pas convoquer l'histoire à ce moment-là et se dire mon métier en tant qu'historien, c'est de ne pas exalter le grand homme, mais là quand même, bon, et puis
mais c'est intéressant quand vous dites mon métier, ce n'est pas d'exalter le grand homme, parce que c'est ce qu'on a en prime time à la télévision, c'est l'exaltation d'un grand homme,
et c'est l'histoire est historiquement, si j'ose dire, un art d'acclamation du pouvoir, donc ça ne m'étonne pas qu'en prime time on parle de Louis XIV et des grands eaux de Versailles. Je dirais que c'est assez banal, mais en même temps, l'histoire peut être aussi autre chose, et ce qu'on... On ne cherche pas l'affrontement dans cette... c'est dans une case qui est bien moins exposée, c'est l'après-midi,
etc. Oui, que Stéphane Bern, bien entendu.
Oui, non, ce qu'on... ça va être difficile, sans doute, de s'opposer trop violemment à cette idée. On défend la diversité. Voilà, c'est à l'idée qu'il y a effectivement une manière moi je n'attaque pas frontalement de raconter l'histoire, mais si on fait métier de l'écrire, alors évidemment, et c'est ça la difficulté de l'histoire médiatique à la télévision, c'est que du temps de Decaux, puisque vous en parliez, au fond, l'histoire, les ciseaux, c'était pas à ce point écarté entre l'histoire savante, l'histoire de la discipline des historiennes et des historiens, et la capacité de la télévision publique à en rendre compte. Là, c'est difficile.
Justement, je vous fais écouter Alain Decaux qui parle de Garibaldi. Vous allez voir ce qu'il introduit, et là, quand même, on voit un fossé entre l'histoire scientifique et l'histoire médiatique.
Nous allons parler ce soir de Garibaldi. Et avant d'aborder ce personnage hors mesure, je voudrais vous dire deux mots simplement d'un grand ami de Garibaldi qui fut Alexandre Dumas. Pourquoi Garibaldi ? Eh bien, parce que c'est un personnage qui personnellement me hante depuis très longtemps, et puis parce que je me suis rendu compte depuis longtemps aussi que on ne le connaît pas.
Voilà le jeu dans la bouche de Decaux. Et Decaux le dira, il est essentiel que je sois passionné. J'ai besoin de mettre mon cœur dehors et mon cœur à l'écran. Or, on dirait, nous, que le propre de l'historien, un chercheur, universitaire, scientifique, c'est justement de dépassionner son approche de l'histoire.
Et voilà exactement, vous avez raison, voilà exactement pourquoi les historiennes et historiens de métier ont sans doute déserté la télévision, mal à l'aise, plus à l'aise avec le micro, sans doute,
de la radio.
Oui. Mais là, outre le fait, effectivement, que ça pose un problème narcissique de se voir, de prendre 5 tonnes.
Il y a cette dimension affective.
Oui, il y a cette dimension affective, il y a cette dimension, je dirais, corporelle. Mais retenons quand même quelque chose de ce que vient de dire Alain Decaux. C'est-à-dire, je le répète, que l'histoire, elle doit s'adresser. Elle doit s'adresser à des gens là où ils sont, à partir de l'endroit où est quelqu'un corporellement, et c'est lui qui parle.
Et c'est le professeur qui nous dit ça, qui s'adresse aussi.
Ben oui, parce que c'est, il y a un moment où c'est une.
À un auditoire.
Si l'histoire est un engagement, c'est d'abord, c'est un engagement physique à être là et à dire, il y a quelqu'un qui vous parle. C'est pas l'histoire de Louis XIV qui, à travers moi, me traverse,
s'exprime.
Me transperce, me transcende et je vais vous faire rêver. Non, c'est un travail.
Alors, c'est un travail qui se raconte et qui s'écrit. Vous avez utilisé vous-même le terme « écrire ». Alors là, vous faites de la télévision, donc c'est aussi une histoire qui se montre et la dimension de l'image, elle est indissociable de la télévision. Vous n'avez pas pu l'évacuer avec vos trois réalisateurs. Forcément, vous vous êtes toujours demandé comment mettre en image. Je vous fais écouter un extrait d'Apocalypse, la grande promesse d'Apocalypse, les archives colorisées, c'est sur France 2.
À Verdun, pendant 300 jours et 300 nuits, les Allemands attaqueront et les Français tiendront. Les survivants, enfermés dans cette guerre depuis 3 ans, on la rage d'en finir.
Apocalypse, la première guerre mondiale, comme vous ne l'avez jamais vue.
Avant d'en venir, Patrick Boucheron, à la question du spectacle, il y a celle de cette photo publiée lundi sur Twitter par le mémorial d'Auschwitz, une jeune fille morte à 14 ans en 1943 dans les camps. Elle a été colorisée, le monde entier en est d'autant plus bouleversé. Elle a l'air si proche de nous, j'entends des gens me dire « elle pourrait être ma fille ».
Oui, c'est déjà d'ailleurs un débat qui avait eu lieu lors, vous l'avez dit, de Apocalypse.
Voilà, Clark il y avait Costel, vendu dans le monde entier.
Dans le monde entier, et il y avait un très beau texte de Georges Didier Huberman à ce moment-là qui s'opposait à cette idée qu'il la trouvait presque obscène, c'est-à-dire obscène au sens propre, c'est-à-dire qu'on venait, nous chercher là, alors là pour le coup dans une émotion contemporaine, comme si brutalement prenant des couleurs, eh bien les choses devenaient plus vraies. Bon, en réalité, c'est quelque chose. Évidemment, vous avez raison lorsque vous parlez d'écriture, et je ne suis que co-auteur de ces de ces films, puisque avec Denis Van Warbeck, Lucie Carry et Pascal Gobelot, et ben c'est eux qui ont créé la grammaire visuelle,
mis en image.
Voilà. Et moi, je suis un historien des images, donc j'aime laisser faire les images, mais bon, sur la mort d'Alexandre le Grand, on n'a pas non plus des masses d'archives, et donc c'est pas le même rapport à l'image. Mais je vous réponds quand même. Bien sûr que là encore, si je fais appel à ce que c'est que le métier d'historien, je vous dirais qu'au contraire, notre travail est de mettre à distance et justement d'étranger, de dépayser. Voilà, de dire, au fond, on n'y était pas. Et même ce qu'on a vu à la télévision, par exemple la libération de Mandela, au fond, on ne l'a vu qu'à la télévision. On n'y était pas. Mais en même temps, ces films travaillent sur la puissance d'actualisation de ces événements qui viennent de très loin, du passé, nous chercher, nous,
et
aujourd'hui.
Et là, l'image est vraiment un vecteur d'actualisation phénoménale.
Vous prenez 1492 à partir du moment... 1492, c'est à la fois la découverte de l'Amérique, l'expulsion des Juifs et la destruction de la présence musulmane en Espagne. Ça nous intéresse.
Ah oui,
ça nous intéresse beaucoup. C'est une mémoire qui est active, qui est vivante, qui est brûlante. Bon. Et donc, il y a une puissance d'action. Ah, parce que si on dit, vous le disiez au début, Christophe Colomb, c'est le héros de la modernité. Donc, c'est la fin du Moyen-Âge, c'est le pli vers l'époque moderne. Ah bon, c'est ça l'époque moderne ? Donc la modernité se paye au prix de l'exclusion de l'autre, c'est intéressant. Si c'est le cas, alors ça vaut la peine d'y réfléchir, ça vaut la peine d'y regarder. Et c'est là où effectivement l'image vient nous chercher.
Merci beaucoup Patrick Boucheron. Quand l'histoire fait date est donc diffusée tous les samedis à 16h30, deux épisodes. Mardi, vous allez retrouver tous les auditeurs qui le souhaitent en direct depuis le studio 104 avec une foule de gens passionnants à partir de 14h30 parce que ce sont les 3 ans de notre opération interclasse. Donc tous ceux qui s'intéressent aux questions de l'école et de l'enseignement y sont les bienvenus. C'est la fin de l'émission. Dans un instant, vous allez retrouver Ali Rebéi en direct du Salon du Livre. Et nous tous, on remercie Frédéric qui a reconnu. Allô, Alain Jérôme, pardon, j'ai eu un petit trou moi, vous voyez, dans la mémoire. Alain Jérôme, le présentateur historique des dossiers de l'écran.